Combien de fois ces versets, notre frère priait, des fois ça m'a ramené, des fois ça m'a repris, des fois ça m'a encouragé. La parole, elle est multifacette, elle est sur mesure pour les circonstances, pour chaque personne, et elle est vivante, elle produit du fruit, et donc c'est ça, c'est merveilleux, donc gloire à Dieu. Je suis content qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu dans Colossiens. On est au chapitre 3, on va lire les versets 1 à 15. Ça va être le cœur de notre message et du sujet qu'on traite, malgré qu'on va aller voir quand même d'autres passages. Mais ici, on a des versets extraordinaires. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Merci Seigneur pour ta parole et merci que tu as quelque chose d'actualité, de puissant, de vivant et qui restaure pour chacune des personnes qui sont ici et qui vont écouter, parce que Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. Ta parole est vivante. Et donc, on te prie que tu ailles libre cours, Esprit du Dieu vivant, pour accomplir tes desseins, souverain, bienveillant. Et Seigneur, on regarde à toi. Protège-nous de regarder à nous-mêmes, de regarder aux vagues, mais vraiment, on saisit ta main, Seigneur. Merci que tu es là, la main tendue. Tu es si fidèle, Seigneur, on te remercie. Éclaire-nous de ta lumière bienfaisante. Et Seigneur, c'est parfait pour nous, Seigneur. On se repose en toi, on se repose dans ta parole. Merci que tu nous donnes cette occasion de s'asseoir à ta table. Béni sois-tu, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Christ, notre paix, par la réconciliation. C'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, Christ notre paix par le pardon. Et je rends gloire à Dieu parce que Dieu nous donne l'occasion de donner l'occasion de différentes façons à différents moments et encore tout récemment d'expérimenter des belles réconciliations, des fois avec Dieu, des fois les uns envers les autres, par le pardon mutuel pour que Christ, notre pardon, puisse amener la réconciliation. C'est pour ça que je dis la semaine passée, on est rendu là. Le Seigneur nous amène à vivre ces choses par sa grâce. Et dans ce sens-là, le fruit de la paix de Dieu, qui vient par le fait de choisir de pardonner, le fruit, ça va être la réconciliation. Lorsqu'on pardonne, bibliquement, et du cœur, ça va donner la réconciliation. Et ça, si vous voulez, c'est la durabilité de la paix de Dieu en nous, entre nous. Et dans le dernier message, on a défait, si vous voulez, le mythe ou le mensonge de disant que ben, pardonner, c'est oublier. Alors, vous rappelez, on a dit non, c'est pas ça bibliquement la compréhension du pardon, l'enseignement du pardon. Le pardon, c'est plutôt relâcher l'offense, relâcher la personne de son offense, ou pour prendre les mots d'Étienne, lorsqu'il a été lapidé, ne leur impute pas leur offense, mets pas ça sur leur compte, ok? C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que ce pardon-là biblique est une source de liberté pour nous-mêmes dans nos cœurs, mais aussi une liberté relationnelle. Parce que lorsqu'on est libre avec Dieu, avec cette paix-là du pardon, bien, on est ici aussi libres les uns avec les autres. Et ça, on a vu hein, la semaine dernière, c'est un choix délibéré. Pas basé sur les émotions, en fait, la plupart du temps, en dépit des émotions. Les émotions sont plus un entrave. mais c'est un choix par la foi. On fait confiance au Dieu, on regarde au Dieu qui est au-delà de ce qu'on voit, de l'offense, de la personne, de, ok? C'est sorti aussi ce matin dans le temps de prière. Et par la foi, on regarde à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement important au verset 13, hein? Supportez-vous les uns les autres, ça c'est positivement, on se soutient, on se supporte. Et si l'un a sujet de se plaindre, hein, ça arrive, négativement, il arrive comme ça des tensions. Pardonnez-vous réciproquement de même. De même, c'est-à-dire la base à la lumière, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc on va amener les vérités qu'on a vues la semaine dernière sur le pardon à leur aboutissement logique, si vous voulez, avec la réconciliation maintenant. Et ça, c'est, si vous voulez, la jouissance pleine de ce pardon-là. Vive le pardon, ça va donner la réconciliation au sein de nos relations. D'abord, notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations mutuelles d'une façon durable et permanente. Et c'est simplement ce qu'on va regarder ce matin avec deux conceptions opposées concernant Christ, notre paix, par la réconciliation. D'abord, la mauvaise conception de la réconciliation. Vous connaissez dans le sermon sur la montagne, qui est un merveilleux sermon, qui est le plus grand des sermons. Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est l'ancienne conception du pardon qui découle, de laquelle découle la mauvaise conception de la réconciliation. Et j'explique. D'abord, on a vu dans Romains 7, ça, il y a vraiment une suite avec tout ce qu'on voit depuis novembre, avec les vérités de Romains 6, 7, 8, puis là avec le pardon, avec la réconciliation. Je vous rappelle que Romains 7 nous dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. » Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, ça c'est avant d'être sauvés, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, contraste, c'est plus pareil. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. C'est crucial ici de comprendre c'est quoi que ça enseigne, ça ici, pour dégager la mauvaise compréhension qu'on peut avoir de la réconciliation. Tout a changé à la mort de Christ sur la croix. Parce que c'est là que l'ancienne alliance s'est terminée. Et que la nouvelle alliance a commencé. OK? Puis là, je vous lis là-dessus un verset. Un testament, l'ancien, parce que dans Hébreux 9, ça parle des deux alliances, les testaments. Donc, Hébreux 9, 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Et donc, quand on comprend ça, la nouvelle alliance n'a pas commencé dans Matthieu 1, avec la naissance de Jésus, puis quand il est venu sur la terre, la nouvelle alliance a commencé à la mort du testateur, à la mort de Christ. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que ça nous fait comprendre le Nouveau Testament selon l'analogie de la foi. Parce que souvent, on prend les merveilleux passages des évangiles, puis tout ça, mais des fois, on applique à des passages du Nouveau Testament dans les évangiles des choses qui sont à l'ancienne alliance, puis on les applique à la nouvelle. Et ça, c'en est une. Si tu ne pardonnes pas, ton Père ne va pas te pardonner. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'ancienne alliance. J'explique un peu plus. Quand ça nous dit, ce que j'ai lu, là, OK, si vous pardonnez, votre Père va vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas. Puis d'ailleurs aussi, dans le Notre Père, c'est ça, quand que ça dit, pardonne-nous nos offenses. Néo-alliantique, en tout cas. Est-ce que c'est prier selon la nouvelle alliance de demander ça? Non, c'est prier selon l'ancienne, parce que Christ est mort une fois pour toutes, puis nous sommes pleinement, parfaitement lavés de tous nos péchés. Tantôt, dans la prière, passé, présent, avenir. C'est ça la nouvelle alliance. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Non, on n'a pas besoin de demander pardon pour des péchés qui sont déjà pardonnés. On a besoin de les confesser. C'est pas pareil. Mais, si on continue avec ce que je suis en train de vous expliquer, lorsqu'on comprend à la lumière de la nouvelle alliance, ces versets-là, si on pardonne, Dieu va nous pardonner, si on ne pardonne pas, il ne va pas nous pardonner. Bon, on voit que ça appartient à l'ancienne alliance qui a vieilli et de laquelle nous sommes dégagés. Ainsi, le pardon qui est à la base de la réconciliation, là, parce que là, on fait un tremplin, là, on parle de pardon, mais on s'enligne sur la réconciliation, là, mais le pardon qui est à la base de la réconciliation ne repose pas sur le fait que nous devons pardonner pour être pardonnés. C'est pas ça la base. C'est plutôt que nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. C'est ça qu'on a vu dans Colossiens, n'est-ce pas? De même que vous avez été pardonnés en Jésus-Christ, pardonnés ainsi. C'est fondamental à comprendre. Je prends le temps de l'expliquer parce que de là découle une mauvaise compréhension de laquelle découlent toutes sortes de mauvais fruits dans nos relations, dans notre relation avec Dieu. Souvent, on peut avoir une espèce d'épée de Damoclès sur notre tête avec ça si on ne le comprend pas bien. Puis aussi, on devient dur avec les autres, puis dans nos relations avec autrui, lorsqu'on ne comprend pas ça de façon relationnelle au niveau horizontal. C'est fondamental de comprendre ça. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Nous vivons à la lumière de ce pardon. C'est pour ça que la Nouvelle Alliance utilise un langage justement comme « pardonner comme vous avez ». Pas « pardonner pour être », mais « comme vous avez été ». OK? Puis, voici comment ça se passe lorsqu'on est dirigé par la mauvaise... Si on est dirigé, c'est-à-dire par la mauvaise compréhension, bon, on a un pardon conditionnel. OK? Donc, la réconciliation aussi le devient. OK? Je vais te pardonner si tu me pardonnes. Dieu va me pardonner si j'ai pardonné. Et par exemple, on va arriver à un point où est-ce qu'on refuse de pardonner quelqu'un parce que son attitude n'est pas bonne. Parce que la personne n'a pas la disposition qu'elle devrait avoir. On a un pardon conditionnel. Alors que, je vous dis, là, le pardon, ça doit être inconditionnel. Même si la personne n'est pas rendue là, même si la personne a encore du chemin à faire, si on ne pardonne pas dans notre cœur, on devient esclave, on devient misérable. Puis on devient l'obstacle numéro un à la réconciliation. Parce qu'il y a un blocage. OK? Le pardon doit être inconditionnel. Peu importe si l'autre est prêt, il n'est pas rendu là. Dans mon cas, si je veux être dégagé, je dois pardonner. Comme moi j'ai été pardonné, je pardonne. Je parle à la lumière, OK? C'est pas à la lumière de ce que l'autre a fait, c'est à la lumière de ce que Christ a fait avec moi. Et après ça, ça peut me mener vers la réconciliation. Ça, on va le voir. Là, il y a une dynamique à deux. Là. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais de mon côté, ma part, c'est dans mon cœur de pardonner. Sinon, je suis en train de voir, comme je l'avais dit la semaine dernière, le poison de l'amertume. Et j'oublie toute la beauté de la rédemption, de la libération que j'ai par le pardon en Jésus-Christ. Et par conséquent, et où est-ce qu'on se retrouve dans une situation de même? Lorsque les gens ne se pardonnent pas, on se retrouve à deux personnes soudées ensemble par leur animosité mutuelle. C'est vraiment pas beau à voir. Ça donne des gens qui sont esclaves l'un de l'autre et qui ne veulent rien savoir l'un de l'autre. Imaginez-vous là, l'image. Là. Sont soudés et ils ne veulent rien savoir. C'est le pardon qui nous dégage. Fait que pensez-vous que c'est le plan idéal de Dieu lorsqu'on parle de cette mauvaise conception de la réconciliation? Absolument pas. Mais c'est quoi le plan idéal au juste? C'est quoi le plan de Dieu pour le pardon, on l'a vu, mais pour la réconciliation? Parce qu'on a vraiment, et je dirais désespérément, besoin d'avoir la juste compréhension biblique pour le vivre. Et vous savez, il y a une loi spirituelle selon laquelle tout découle de notre théologie. Si notre théologie est de travers, si notre compréhension biblique est de travers, tout le reste va être de travers. Et c'est tellement important dans ce qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir la juste théologie ou compréhension biblique de la rédemption avec ce qu'on parle. Parce que la rédemption, c'est ça, la réconciliation. Vous savez, dans la rédemption, on parle de théologie. Dans la rédemption, il y a de la christologie. dans la rédemption, il y a de la théologie, il y a de la sotériologie, il y a de l'armatiologie. Là, je ne veux pas juste vous impressionner avec des gros mots au matin, mais je veux vous dire qu'une compréhension de la rédemption, là, il y a beaucoup de bagages théologiques qui est rattaché à ça. Parce que toutes les trois personnes de la Trinité sont engagées là-dedans. Il y a toutes sortes de choses qui nous engagent aussi là-dedans. Et donc, c'est important de le comprendre comme il faut, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence avec ces choses-là. C'est ce qui nous amène à la deuxième conception, la bonne conception de la réconciliation. Et ça, je vais vous amener un verset qui va peut-être vous surprendre un peu. La bonne conception de la réconciliation. Écoutez le verset que je vous mets pour vous amener à comprendre ça. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il dit la même chose avec son sang. Pour mettre les choses claires et simples, je vais vous faire le parallèle ici entre ce que Jésus a répété là, par rapport à « en mémoire de moi », par rapport à son corps et son sang. OK? Puis ce qu'on célèbre dans le repas du Seigneur, ce qu'on se rappelle, ça va nous aider par rapport à la mécanique, à la dynamique de la réconciliation. Écoutez-moi bien, j'ai besoin de toute votre attention. C'est pas compliqué, mais il faut juste qu'on le voit clairement. Jésus, qu'est-ce qu'il communique ici? Parce que je vous mets en parallèle deux vérités. Fait que je vais vous expliquer celle-là avec le repas du Seigneur, puis je vais vous expliquer ensuite comment on peut faire le parallèle avec la réconciliation. Jésus, lorsqu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi », dans le contexte de la scène, dans le contexte du repas du Seigneur, ça veut dire à chaque fois que vous participez à la communion, faites-le en vous appropriant la réalité de cette connexion, de cette communion que vous avez avec moi, en vous rappelant les éléments. Communion à mon corps, communion à mon sang. Vous reconnectez avec ça. Et là, comprenez bien. Il ne nous demande pas juste de se remémorer de façon intellectuelle et mentale la crucifixion. C'est pas ça que Jésus nous demande, là, juste un exercice simplement mental. Non, non. Christ nous appelle à réaffirmer par la foi que nous sommes joints à lui. Dans son corps, dans son sang, dans sa mort, dans sa résurrection, nous sommes joints à lui de façon inséparable. Il dit, rappelez-vous de ça. Oubliez-le jamais. Ramenez ça. Reconnectez-vous à cette vérité-là. C'est salutaire. Pourquoi que le Seigneur nous demande? Il y a donné deux ordonnances. Le baptême puis le repas du Seigneur. C'est fondamental. Il veut tout le temps qu'on garde cette connexion-là, pas juste dans notre tête, mais dans nos cœurs. Parce que c'est ça l'essence de la vie chrétienne. C'est notre union avec Christ. C'est ça le repas du Seigneur. On se rappelle notre union avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, si je peux employer l'expression, c'est un peu, si vous voulez, un rappel organique et non pas seulement théorique. Il y a quelque chose de vraiment ici, tu sais, organique dans le sens comme une plante. Hein? Christ est la vigne et nous, on est les branches. Et donc, on se rappelle de cette connexion vitale que nous avons avec notre Sauveur. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse lorsqu'on a le repas du Seigneur. Bon, là, on a compris ce bout-là. À la lumière de ça maintenant, quand vient la question du pardon vers la réconciliation, quand on parle du pardon des offenses entre nous autres, okay, parce qu'on s'offense les uns et les autres, on a sujet de se plaindre l'un de l'autre. Bon, on a déjà démontré clairement dans le message de la semaine dernière qu'on n'est pas appelé à oublier. Parce qu'il y a des choses qui sont juste... Des fois, on peut des affaires oublier, mais des affaires qui sont des fois tellement profondes et traumatiques et que ça ne s'oublie pas. Okay? Donc, on n'est pas appelé à oublier de dire « j'efface ça de ma mémoire », mais plutôt à relâcher, à ne pas imputer cette chose à cette personne. Ainsi, tout le concept de la réconciliation, selon ce pardon-là biblique, là, écoutez bien, c'est le refus de rétablir la connexion avec le péché entre moi et la personne. La réconciliation, c'est le refus de rétablir la connexion. Comme le Seigneur a dit, rétablissez la connexion avec moi, avec le repas du Seigneur. Ben, la réconciliation, c'est le refus de rétablir cette connexion-là avec le péché, avec l'autre. Ça, c'est du légalisme. Définition biblique du légalisme. Quand on reconnaît qu'avec le péché, on est basé sur la loi dans nos relations avec les autres. Puis pensez à quelqu'un que sa conscience l'accuse tout le temps, puis il n'est jamais en paix. C'est qu'avec sa relation avec Dieu, il y a une interprétation légaliste de sa loi avec Dieu, de sa relation avec Dieu. Et Dieu n'est pas content de moi à cause que j'ai fait ci ou que je n'ai pas fait ça. Fait qu'il est tout le temps en tension. La relation est basée sur... Ça peut être pareil avec l'un et l'autre. On va tout le temps trouver quelque chose de se plaindre l'un et l'autre. Donc, si je veux tout le temps rétablir la connexion, ça ne va jamais marcher. Le pardon qui mène à la réconciliation, c'est ce refus par la foi. Puis on va développer un peu plus, mais de rétablir cette connexion. En fait, c'est quoi de façon positive? C'est plutôt de rechercher à rétablir la relation brisée. Et c'est ça la grâce. Dieu, il n'est pas resté tout le temps à nous pointer notre péché. Évidemment que la loi, on avait besoin de passer par là parce qu'on est péchant, on a besoin de se voir tel qu'on est. Mais la grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui est allé au-delà de ça. Puis qui a rétabli la relation, c'est ça notre salut, puis c'est ça notre salut interpersonnel. C'est lorsque notre relation est basée sur la grâce de Dieu. Oui, le péché est là, et même il abonde des fois, puis même des fois il y a des situations parce qu'on regarde notre passé, puis « Ah, mon ami, ma relation familiale, ma relation de couple, mais peu importe, le péché a abondé. » Mais la grâce surabonde, c'est ça... La réconciliation, c'est basé sur la grâce de Dieu. Attendez pas que l'autre mérite. Ça va pas arriver. Attendez pas que l'autre en soit digne. Mais attendez-vous à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il arrive quelque chose de difficile. Ça dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais c'est quoi, des fois? C'est pas possible. Il faut s'attendre à Dieu. Il y a des gens ici là, qui attendent désespérément après une réconciliation, puis ça passe juste pas. Même si eux sont disposés, sont prêts, puis ils prient là-dessus, mais ça dépend pas d'eux. Faut prier. Faut s'attendre à Dieu. Mais au moins, dans notre cœur, on est libre, puis on est prêt à ce que Dieu veut faire. Ça, c'est le pardon qui dispose à la réconciliation, puis quand on est face à l'autre, on a cette disposition qui voit au-delà du péché, au-delà de l'offense. Puis c'est là que c'est dur. Parce que l'offense, c'est facile d'en parler en théorie, mais ça fait mal, l'offense. Ça fait mal. Et donc, je dirais que tout ce que je viens de vous expliquer là, ça nous donne une bonne compréhension de c'est quoi que ça veut dire de vivre à la lumière de la croix. Vivre à la lumière de la croix, parce que la réponse de Dieu en Jésus-Christ à notre offense, c'est la croix, n'est-ce pas? On dit, j'ai été crucifié avec Christ, et je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Vivre à la lumière de la croix, c'est laisser Jésus comme ça vivre de cette manière-là, sacrificielle, et qui se donne même pour ceux qui l'ont offensé. En fait, de la même manière que Christ a brisé la puissance du péché, lorsque on vit à la lumière de la croix dans nos relations, ça brise la puissance du péché parce que c'est plus le focus. Si vous voulez que quelque chose ait une puissance dans votre vie, restez focusé là-dessus. Si vous voulez que la puissance de Christ soit sur votre vie, gardez les yeux sur lui. Si vous voulez que le péché fasse des dégâts dans vos relations, dans votre cœur, gardez les yeux là-dessus. Puis, c'est une loi spirituelle. On dépend et de ce sur quoi nos yeux y sont et le fruit va en dépendre aussi, va en ressortir. Et donc, briser la puissance du péché, la puissance de l'amertume, de l'animosité, on a vu ça dans Colossiens. C'est quoi l'amertume, l'animosité? C'est remettre le péché, remettre l'offense au centre de la relation. Puis ça, je vous dis... La nature humaine est... Essayez pas d'oublier, puis essayez pas. Lorsque ça l'arrive par la foi, on dit non. Comme j'ai été pardonné, je pardonne. Comme j'ai reçu la grâce, comme la grâce de Dieu règne dans ma vie, je veux aussi répondre de cette manière-là afin que la grâce règne. Donc, mon idée avec le repas du Seigneur, là, tout comme dans le repas du Seigneur, on reconnecte avec le Seigneur dans le sens où on se rappelle la réalité de notre union avec lui. De même, la réconciliation biblique, Christ notre paix par la réconciliation, c'est le choix délibéré de ne pas reconnecter avec le péché, mais de connecter avec la personne. Est-ce que, puis là, ça amène cette question. Est-ce qu'on voit, là, c'est hyper important, je voulais vous dire, ça montre où nos valeurs et où notre trésor. Est-ce que la personne est plus importante pour que je puisse reconnecter avec ou l'offense qu'elle m'a faite? C'est ça le message qu'on dit. La personne ou l'offense? La personne ou le mal? C'est vraiment, vraiment, je vous dis, les vérités qu'on voit là, c'est le cœur de l'Évangile. Je veux dire, on est là avec ce qu'on a vu, notre union avec Christ, puis là, c'est la mise en pratique de ça, parce que toute notre vie, tous les concepts de notre vie en Jésus-Christ, puis tout ça, ça se passe avec ces choses-là sur le pardon et la réconciliation au niveau relationnel. Donc, le choix délibéré de ne pas se reconnecter avec le péché, mais reconnecter avec la personne, à cause qu'on vit à la lumière de la vérité bénie, que nous avons été pardonnés, nous avons été reconnectés en Jésus-Christ. Et j'aimerais juste amener quelque chose d'un peu plus loin par rapport à cette réflexion. Est-ce que notre réconciliation avec autrui est basée sur notre capacité ou le fait d'essayer d'oublier l'offense? Certainement pas, parce que Dieu ne nous demande pas ça. Puis c'est ça, comme je l'ai dit, des fois c'est simplement pas possible, c'est des choses qui nous hantent, qui nous reviennent. Dieu peut nous faire oublier, peut enlever, briser l'emprise que ça a sur nous. Mais ça va revenir parce qu'on est dans une guerre, on a la chair, il y a tout ça, puis quand on voit quelqu'un, il arrive des choses, ça nous le rappelle. Non, Dieu ne veut pas qu'on oublie, qu'on efface. La réconciliation est basée sur notre choix de relâcher ceux qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, les relâcher de de leur obligation envers nous, parce qu'on décide de refuser de se joindre à nouveau avec leur offense, avec la blessure qu'ils nous ont causée, avec le péché qu'ils ont fait. Mais on se joint à eux pour ce qu'ils sont. Il y a peut-être des choses qu'on ne va jamais oublier, mais à mesure qu'on décide de marcher dans le pardon, ces choses-là, je vous dis, vont perdre leur puissance, leur emprise sur nous autres. Vous savez de quoi je parle? Parce que moi, je sais de quoi je parle, puis on est tous pareils. Je veux dire, ces choses-là, c'est vraiment une question de focus. Des fois, on dit, ah, c'est bien trop grand pour moi, c'est trop dur. Oui, parce que au début, puis si c'est tout frais, puis on est habitué à regarder à ça, on n'est pas habitué à l'autre, à la nouvelle normale. Mais plus on s'habitue à regarder au Seigneur, plus on vit dans ce pardon, cette réconciliation, plus ça devient littéralement notre seconde nature, parce que c'est ce qu'on est en Jésus-Christ. On apprend à vivre selon ce que Dieu a fait de nous autres. C'est tellement merveilleux, c'est tout bon, là. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'attrape là-dedans. Là. C'est la bonté de Dieu. Lorsqu'on y pense, on va arriver ainsi au point où même si tout n'est pas oublié, on ne ressent plus toute la douleur de ces choses parce qu'on expérimente la guérison.
Amen.
La guérison dans notre cœur puis la guérison relationnelle. Et c'est ça, une église. C'est ça, une famille. Puis si on est vrai, savez-vous, il y a quelque chose de tellement beau dans notre église. Dieu cultive une atmosphère de vérité. De ne pas avoir peur d'être vrai, mais il y a un prix à ça. Quand on est vrai, on se fait vraiment mal. Mais, je veux dire, moi, j'aime mieux être vrai. Puis oui, OK, puis c'est quoi? On expérimente la grâce de Dieu. J'aime mieux être vrai avec le monde que de faire semblant, puis jouer des games, puis tu sais, malheureusement, des fois, ça devient un mécanisme de défense des gens. Ils veulent pas être vrais, veulent pas s'engager parce qu'ils ont eu trop mal. C'est triste. C'est triste. Je veux juste conclure avec quelque chose de bien simple. Donnez-vous pas le but impossible d'oublier les offenses que vous avez pu avoir pour essayer de pardonner et de rechercher la réconciliation, parce que ça va bloquer la voie de Christ, notre paix, par la réconciliation. Mais Christ, lui, il est la voie de la liberté de notre vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché puis de la mort. C'est ça qui arrive avec ce qu'on parle. Il y a deux lois qui s'affrontent, puis nous, on doit se soumettre. C'est ça la beauté de la soumission. Quand on se soumet à Dieu, on est libre, on goûte la vraie vie. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qu'il faut qu'on demande que Dieu nous les révèle. Je priais ça tantôt parce que dans notre nature humaine, dans notre folie humaine, on dit que la soumission, c'est donc bien pas beau, puis c'est donc bien misérable, puis c'est Dieu qui veut nous donner de la misère. Au contraire, c'est Dieu qui nous aime tellement qu'il nous dit, fais-moi confiance, quand tu te soumets, c'est là que la vraie vie commence. C'est là que tu expérimentes la grâce ineffable de ma vie. Et savez-vous quoi? Il faut faire attention parce que c'est facile d'être contaminé dans notre cœur, dans nos relations par les mauvaises attitudes qu'il peut y avoir, des fois des émotions fortes, des dispositions émotionnelles qui... Tu sais, des fois, des affaires, ça nous prend, là. Tu sais, on parle pas juste de choses, là, en surface, puis tu sais, non, des fois, ça va nous chercher profond. On l'a vu, d'ailleurs, même la semaine dernière, là, quand on priait, on voyait que ça, je vous l'avais dit, ça gratte profond quand on parle de ces choses-là. Mais on veut pas se laisser contaminer par ça, parce que on regarde à celui qui est notre vie, qui est notre guérison, qui est notre pardon. Comment on se laisse contaminer quand on a les regards fixés à mauvaise place? Ça nous empoisonne l'intérieur. Au lieu de regarder à Christ élevé, on regarde au serpent brûlant qui nous donne la mort. C'est littéralement ça qui arrive. C'est vraiment intéressant ce que je parlais avec ma femme en fin de semaine. C'est vraiment récurrent où est-ce qu'on voit, tu sais, Abraham, pour regarder à son corps qui vieillit. Il y a plein d'exemples où est-ce que, regarde pas là, regarde à moi. Regardez dans la Bible, là, des exemples de personnes qui étaient dans la tentation ou l'évidence, arrêter de regarder à ce qui va pas, à ce qui est dur, tout ça. Puis Dieu dit non, regarde ailleurs, puis c'est là qu'est la délivrance. C'est encore pareil, c'est une loi spirituelle. Où on va regarder, on va devenir esclave, on va devenir... c'est ça qui va agir dans notre vie. Et Christ, notre paix par la réconciliation, c'est lui qui nous permet d'agir selon ce qu'on est vraiment. On est une personne rachetée, une nouvelle création, quelqu'un d'aimant qui pardonne avec un désir d'honorer le Père parce qu'il a été pardonné. N'est-ce pas ce qui est dans nos cœurs? Là, je ne vous dis pas ce qui est arrivé quand vous avez été offensé. Ça, c'est ce qui est dans notre chair. Mais quand on est régénéré, c'est dans notre cœur. C'est ça qu'on veut. C'est la beauté de l'œuvre de Dieu en nous. On le veut vraiment, n'est-ce pas? Quand on a un enfant de Dieu, c'est le désir profond de notre cœur. Dieu veut simplement nous amener à agir selon ça, la réalité de ce que lui a fait en nous, avec nous. Et c'est définitivement la voie par excellence, celle de l'amour agapé, qui est caractérisée par ceci. Je vous laisse une couple de versets dans Éphésiens, pas Éphésiens, mais 1 Corinthiens, au chapitre 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Puis ça dit au verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Pensez-vous que ça fit bien avec ce qu'on vient de parler aujourd'hui? C'est vraiment, c'est par l'amour. C'est par l'amour. Puis je lance mon appel aux enfants de Dieu. Là. On parle de pardon, d'amour, puis tout ça, puis... Ah, Seigneur, j'ai pas ça en moi, mais je le veux, je le veux. Je l'ai déjà dit, mais ça me dérange pas de le répéter. Si vous voulez plus d'amour, demandez pas à Dieu, « Dieu, je veux plus t'aimer. » Parce que là, ça commence avec « je ». Ça commence en mauvaise place. Si vous voulez plus d'amour pour Dieu, pour votre prochain, pour des gens qui vous ont offensé, demandez à Dieu de vous révéler, lui, son amour. Tout commence avec Dieu. Quand on est saisi par l'amour de Dieu, comment on est aimé, de ça va découler, c'est ça qui va porter du fruit. C'est pas la logique humaine, nous, ben j'ai un besoin, ben j'ai besoin de l'amour, puis là je vais me servir de ça. Non, non, c'est que Dieu, quand on voit lui qui il est, puis le, du grand amour qu'il nous a aimé, ça suscite en nous une réponse, une vie, ça l'anime en nous, cette vie.
Puis ça, c'est merveilleux. Fait, parce que si je dis Dieu, donne-moi plus d'amour, qu'est-ce qui arrive? Là, on est dans une espèce de barème. J'aurais plus d'amour. Tandis que quand on regarde l'amour de Dieu, il est infini. Ça n'arrête pas, il n'y a pas de limite. Puis là, on est, comme on dit en bon québécois, on est flabbergasté. On est dépassé, on est... Et c'est ça qui va faire qu'on va être en mesure, qui va nous rendre capables de pardonner, d'avoir la réconciliation biblique. C'est avec ça qu'on est parti, n'est-ce pas? De même que vous avez été pardonné. Dieu, montre-moi à quel point tu m'aimes pour m'avoir pardonné. Puis, si Dieu nous révèle ces choses, je me rends compte en avançant dans la vie chrétienne que notre plus grand besoin, là, c'est de connaître notre Dieu vraiment comme il est. Que Dieu se révèle à nous dans toute sa splendeur, sa beauté, sa grâce, sa grandeur. Quand on a ça, tout le reste en porte fruit. Imaginez-vous, là, on s'inquiète, on a peur, on est donc enragé avec quelque chose. Dieu nous montre qui il est. Il nous montre sa grâce, sa patience envers nous. Il va vous dire, ça nous calme le pompon. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Puis là, on voit, ouais, j'ai été donc bien dur envers l'autre, mais Dieu est tellement bon envers moi. Ça change complètement les choses. Peut-être que vous êtes ici et vous vous tenez dans besoin de pardon, de réconciliation avec Dieu lui-même. Le message chrétien, c'est un message de réconciliation. Si vous n'êtes pas passé vous-même par la croix, on a parlé que la croix, c'est le message de réconciliation entre Dieu et l'homme. Vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On parle de la paix de Dieu dans le mois de décembre. Mais est-ce que vous avez la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur? Si vous n'avez pas encore été réconcilié avec Dieu par la croix du calvaire, on est tous unis d'un même cœur à dire « Soyez réconciliés avec Dieu. » C'est là que tout commence. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour nous, enfants de Dieu, que Dieu puisse faire une œuvre extraordinaire, qu'on n'ait pas peur de payer le prix. Il y en a un prix à payer, mais la récompense en vaut tellement la peine. Qu'on ne regarde pas au prix à payer, qu'on regarde à la récompense. Qu'on ne regarde pas à ce qui nous fait peur, qu'on regarde à celui qui nous réconforte. Qu'on ne regarde pas à l'épreuve, qu'on regarde à celui qui nous fait surmonter dans l'épreuve. Sont où nos yeux ce matin, mes frères, mes sœurs? Qu'on les fixe sur notre maître, sur le chef et le consommateur de notre foi. Merci, Seigneur. Merci. Et c'est à toi qu'on regarde. Oh, ne nous permets pas de jeter nos regards inquiets à gauche, à droite, ou sur telle personne, sur telle situation. Seigneur, c'est à toi qu'on veut regarder, on veut fixer, bloquer, on veut enchaîner nos regards à toi, Seigneur. On veut vraiment, Seigneur, te voir dans toute ta beauté. Et donc, je te prie pour moi puis pour chacun ici, et ceux aussi qu'on aime, qui ne sont pas ici, peut-être des fois dans d'autres églises, où révèle-toi à nous, notre Dieu. Révèle-toi à nous dans toute ta grâce, ta splendeur. Et on sait, c'est la même chose si quelqu'un n'est pas sauvé. Seigneur, il faut que tu révèles ton Fils à son cœur. C'est la seule façon de venir à Jésus-Christ. Et donc, on te prie, Seigneur, de faire cette œuvre. Cette œuvre extraordinaire. De te révéler à nous afin qu'on te connaisse, toi. Pleinement. Puissamment. C'est là qu'est la vie. C'est là qu'est la joie. Et la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, on s'en remet en tes mains, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.